CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans un MAG où on vous parlera du programme de juin à la Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. Conférences, visites guidées et vernissage de l'exposition Aéroscopia Mémoire des airs, quand l'archéologie et les sciences éclairent le passé, c'est ce soir à 18h30, une exposition sur l'évolution de l'aéronautique durant la Seconde Guerre mondiale en Occitanie, résultat de plusieurs années de recherche sur les crashs d'avions, et ce sera pour la deuxième partie de ce MAG. Avant ça, focus patrimonial sur les tapisserie de la collégiale de Montpezat-Quercy. Elles ont plus de 400 ans et Emmanuel Mourou du Conservatoire des Antiquités et Objets d'Art de Tarn-et-Garonne les a étudiées pour nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Lisa.
Cette tapisserie, elle date du 16e. Qu'est-ce qu'elles font là ?
Alors cette tapisserie, elle date effectivement du tout début du XVIe siècle, certainement du, on va dire du premier tiers, dans les années 1520-1530 à peu près. Et elles sont là parce que, eh bien, un des fils du seigneur de Montpezat, qui s'appelait Jean Després, est devenu évêque de Montauban, justement, dans ces années 1519, et il est mort en 1539. Et donc, il a offert cette tapisserie à l'église dans laquelle il avait été baptisé, et puis qui était l'église aussi de son village. Voilà.
Oui, c'est un village, quoi, Montpezat-Quercy, pour des tapisseries qui sont classées monument national, je crois.
Oui, elles sont classées monuments historiques depuis 1898. Elles font partie des tout premiers objets mobiliers qui ont été classés monuments historiques, et justement à cause de leur importance et de leur rareté aussi.
Elles font 23 mètres de long. Elles sont justement récemment restaurées. Vous pouvez nous les décrire ?
Oui, alors ces tapisseries, alors c'est ce qu'on appelle en fait des tentures de cœur. C'est un objet un petit peu spécifique dans l'art de la tapisserie, puisque ce sont des tapisseries qui ont été tissées spécialement pour une église, d'où le titre de tenture de cœur, et elles prenaient place, cette tapisserie, dans le cœur de l'église, c'est-à-dire au-dessus des stalles, donc ces sièges amovibles dans lesquels s'asseyaient les religieux qui s'occupaient de la collégiale de Montpezat, donc les chanoines. Alors on a cinq panneaux qui racontent la vie de Saint Martin de Tours, donc c'est cinq grands panneaux, comme tu le disais, sur la dimension de ces panneaux. Hein. Donc, cinq grands panneaux qui sont des tapisseries, ce qu'on appelle de haute lisse, donc qui sont tissés au métier, et qui sont réalisés en fil de laine, et également en fil de soie pour tout ce qui est fil doré. Donc, ces cinq panneaux racontent chacun, un ou plusieurs épisodes de la vie de Saint Martin de Tours, qui est le saint patron de la collégiale de Montpezat. C'est une sorte de bande dessinée, au final. Au travers de l'image, on va raconter un épisode de la vie de Saint Martin, depuis le premier épisode connu, qui est le partage du manteau. C'est peut-être une image que l'on connaît le mieux de la vie de Saint Martin, hein. Martin, soldat romain, qui donne la moitié de son manteau à un pauvre. Alors pourquoi la moitié? Pas parce qu'il était radin, mais parce qu'en fait, les soldats romains ne possédaient que la moitié de leur équipement. L'autre moitié appartenait donc à l'Empire. Donc il a donné sa part à lui. Et puis donc on suit comme ça toute la vie de Saint Martin, quasiment jusqu'à la fin. Donc des tapisseries très colorées. Les couleurs sont encore très très bien conservées, avec donc ces épisodes très vivants, et puis des fonds qui sont garnis de villes, de personnages, de fleurs aussi, qui sont des caractéristiques de cette tapisserie des Flamands.
Oui, elles sont flamandes. Alors, les couleurs sont encore chatoyantes, parce qu'elles, ces tapisseries, elles sont conservées sous un épais rideau qui les protège un petit peu de la lumière. C'est pour ça que je crois qu'elles ont dû être restaurées. Elles ont plus de 400 ans. On dirait que comment ça se conserve, des tapisseries comme ça?
Alors, la chance qu'on a eue pour cette tapisserie de Montpezat, c'est qu'en fait, comme d'ailleurs bon nombre de tapisseries d'église, elles n'étaient pas exposées en permanence. C'est-à-dire qu'à partir de leur arrivée à Montpezat, donc dans ces années 1530, jusqu'au tout début du 19e siècle, ces tapisseries, elles étaient exposées dans le chœur que une ou deux fois par an pour les fêtes, quelques jours seulement. Donc, ce qui explique leur bonne conservation par rapport aux couleurs. À partir du début du 19e siècle, elles vont être exposées en permanence pour faire joli. Et puis, de toute façon, il n'y a plus de chanoines. La Révolution a mis fin au chapitre de chanoines. Donc, le curé de l'époque a décidé de les mettre au-dessus des stalles pour faire joli. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles vont se dégrader un petit peu plus. La tapisserie, en général, souffre beaucoup des rayons du soleil et qui fanent les couleurs. Et donc, ces tapisseries, elles vont être restaurées une première fois dans les années 1920 par les Gobelins à Paris. Et puis, un siècle après, ou quasiment un siècle après, on s'est rendu compte qu'il fallait justement les restaurer à nouveau. Elles s'étaient beaucoup encrassées. Et puis, on avait un gros souci qui était que leur disposition sur les murs de la collégiale entraînait des déformations importantes. Il fallait donc essayer de trouver une solution justement pour pallier à la fois la lumière et puis les déformations. Donc, ça a été un gros chantier qui a été mené entre 2015 et 2017 par la commune de Montpezat de Quercy, sous le contrôle scientifique et technique de la conservation des monuments historiques, donc du ministère de la Culture. Et la solution adoptée a été justement d'avancer les stalles, de pouvoir donc avoir des plans, des boiseries qui n'y ait plus de déformation, sur lesquelles on a tendu les tapisseries avec des velcros. Et puis ces tapisseries, elles sont parties en restauration donc pendant plusieurs mois à la manufacture De Witt, donc à Malines, en Belgique, donc qui est une manufacture de restauration parmi les plus célèbres au monde. Et donc elles ont été nettoyées, ces tapisseries, elles ont été. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient très sales. Donc elles ont été nettoyées et puis elles ont été doublées. Le revers a été doublé avec une toile de lin et on a pu donc les remettre telles qu'elles étaient. Et effectivement, donc ça c'était pour les déformations. Et pour la lumière, le choix a été fait de ce rideau, donc avec un tissu assez lourd et qui surtout donc permet de ne plus avoir de risque avec la lumière, avec les UV sur les tapisseries.
Et aujourd'hui, on peut les voir. Forcément, c'est pas ouvert tout le temps. Tapisserie et tableaux de la collégiale. Alors, on va parler des tableaux. Juste avant ça, vous avez précisé qu'elles avaient été restaurées en Belgique. Ce sont des tapisseries flamandes. C'est une spécialité nationale.
Ah oui, les Flandres, à partir de l'époque médiévale, se sont un petit peu spécialisés dans la production, effectivement, de tapisseries, même si Paris est aussi une des capitales de la tapisserie à cette époque-là. Donc, en fait, Paris et les Flandres vont rivaliser jusqu'au début du XVIIe siècle dans la production de tapisseries. Ces tapisseries de Montpezat, on pense qu'elles sont flamandes. En tout cas, le peintre qui a réalisé ce qu'on appelle les cartons, c'est-à-dire qui a dessiné les tapisseries, est flamande, ça c'est certain. Après, la réalisation, c'est-à-dire le tissage, est peut-être dû à des ateliers des Flandres, donc tournés potentiellement, mais ça pourrait être aussi Paris. Oui. Cette tapisserie a fait l'objet d'une étude assez poussée il y a maintenant 3-4 ans pour un colloque international sur la tapisserie autour justement de ces motifs, de l'identité potentielle du peintre, qui est certainement flamand. Et il se trouve qu'en même temps, j'avais pu travailler sur des tableaux qui sont dans la collégiale, qui sont un petit peu plus tardifs, qui sont 17e siècle essentiellement, ou 18e, et certains ont été réalisés aussi par des peintres flamands qui sont venus en ce début du 17e siècle jusqu'en Quercy pour peindre, pour réaliser des tableaux. Voilà, donc c'était intéressant de faire ce parallèle entre ces tapisseries flamandes et puis nos peintres flamands qui sont venus un siècle après en Quercy. Alors, comment on le sait par rapport aux peintres, on a eu la chance, on a une série de tableaux qui est signée. On a le nom du peintre ça nous permet le nom du peintre permet de dire qu'il est flamand. Et puis il y a des découvertes d'archives aussi qui permettent de donner des noms et de préciser que ces peintres-là venaient des Flandres.
En quoi elles sont exceptionnelles, en vrai, ces tapisseries, mis à part qu'elles sont vieilles?
Alors, elles sont exceptionnelles de par leur qualité, déjà. C'est quand même des tapisseries au niveau du dessin et de l'exécution. C'est vraiment du très très beau travail. Et d'autre part, elles sont uniques au monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que dans ces ateliers de tapisserie, on utilisait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cartons, c'est-à-dire donc des dessins. Et puis ces dessins étaient reproduits en tapisserie. Et souvent, les ateliers pouvaient faire plusieurs exemplaires d'une même série. Donc ils vendaient plusieurs fois la même série de tapisseries. Là, celles de Montposa, elles sont uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'un seul exemplaire. Donc c'est une commande a priori spécifique, spéciale, pour la collégiale de Montposa. Et donc c'est en cela qu'elles sont vraiment, vraiment exceptionnelles. C'est qu'elles sont uniques et d'une très grande qualité.
Emmanuel Moureau, autour de ses tapisseries et des tableaux de la collégiale, j'ai dit église, c'est une collégiale. Juste en deux, trois mots, donc vous êtes pour le conservatoire des antiquités et objets d'art de Tarn-et-Garonne, c'est quoi votre travail?
Moi je suis chargé de veiller sur les objets mobiliers, hein, donc tout ce qui se déplace, hein, alors en théorie ça va de la petite cuillère jusqu'à la locomotive, même s'il n'y a pas de locomotive protégée en Tarn-et-Garonne. Donc veiller sur les objets mobiliers qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc inscrits ou classés, qu'ils soient propriété privée ou propriété publique, et puis aussi de trouver d'autres objets qui pourraient mériter cette protection au titre des monuments historiques, donc à la fois des objets médiévaux ou du 17e et 18e siècle, mais aussi du 19e ou du 20e siècle, sur du patrimoine par exemple industriel, scientifique ou technique, hein, je pense à des machines agricoles par exemple, ou d'autres objets auxquels on ne penserait pas. C'est un petit peu ça mon métier, c'est à la fois de veiller sur l'existant et puis de découvrir d'autres types d'objets.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi s'occuper, oui, en effet.
Emmanuel Moureau pour le Conservatoire des Antiquités et Objets d'Art de Tarn-et-Garonne, merci beaucoup.
Merci.
Should we live?
CFM Caylus, le mag.
De retour de ce mag, on vous propose de détour par La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds, pour le programme du mois de juin. Une conférence, une visite guidée et le vernissage d'une exposition. C'est là, c'est ce soir, et c'est Carole Stadnitsky qui va nous lancer l'invitation. Bonjour Carole.
Bonjour.
La directrice de La Mounière. Alors, le vernissage de l'exposition Mémoire désert, quand l'archéologie et les sciences éclairent le passé. C'est une exposition qui nous vient du musée de Toulouse, Aéroscopia.
Exactement, voilà. Et on n'est pas peu fiers d'accueillir une exposition de ce musée Aéroscopia, dont voilà, la notoriété est certaine ici en Occitanie. C'est un musée qui a ouvert en 2015. D'ailleurs, il a ouvert seulement 2 ans avant l'ouverture de La Mounière. La Mounière a ouvert en 2017. Et donc Aéroscopia, c'est un musée, je pense que les auditeurs le connaissent, hein. Il se situe à Blagnac, il y a 35 000 mètres carrés de surface, avec des expositions d'aéronefs en tout genre. On peut monter dans le Concorde, dans l'Airbus A380. Enfin bon, je vous passe les détails de ce musée que tout le monde connaît. Et ce musée voilà, nous prête une exposition qui s'appelle « Mémoire des airs ». Et en effet, cette exposition est itinérante, donc on a la chance de l'accueillir à La Mounière. Et elle vous parlera de la Seconde Guerre mondiale vécue en Occitanie, donc du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. C'est vraiment une exposition qui est intéressante parce que vous allez voir... une lecture de 11 panneaux qui sont assez faciles d'accès, hein, clairement. Mais associés à ces panneaux d'explication, on a aussi une présentation de modèles d'avions qui ont été réalisés en miniature. Donc vous aurez 4 modèles d'avions, ce sont des maquettes qui ont été faites par un modéliste amateur qui s'appelle Alain Depège et qui du coup voilà, nous propose ces maquettes. Et ce sont des maquettes qui sont associées à des morceaux véritables de ces avions qui datent de la Seconde Guerre mondiale et des avions qui ont été trouvés suite à leur crash en Occitanie. Donc voilà en gros comment s'organise cette exposition. Et ce qui est vraiment passionnant dans cette exposition, c'est qu'elle rend compte des efforts conjoints qu'il y a pu avoir entre justement associations de passionnés, notamment de modélisme, et le monde de la recherche et des institutions. Voilà, tout ce monde-là s'est mis ensemble à travailler et ça a donné lieu à cette exposition qui est vraiment bien réussie. Ça permet de s'immerger vraiment dans l'histoire locale de manière interdisciplinaire, en fait, si vous voulez, entre histoire de l'aéronautique, chimie des matériaux et archéologie contemporaine. Mmh. Parce qu'il y a c'est assez dense parce qu'en fait, il y a des labos de recherche en fait, hein, qui ont travaillé pour cette exposition-là. Et c'est vraiment le résultat de plusieurs années, hein, de recherche. D'ailleurs, le projet s'appelle PAREO. Alors, c'est drôle parce que PAREO, ce mot, c'est la contraction de patrimoine et aéronautique. Donc voilà, c'est un projet qui s'appelle PAREO et qui vraiment a pour but de recenser les crashs d'avions, donc les sites de vestiges, durant... pas uniquement la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, ça commence à partir des débuts, pardon, de l'aéropostale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 20 jusqu'en 45. Je vous coupe, je voulais juste vous donner ce chiffre qui est quand même important. En fait, il y a 460 sites de crash qui ont été recensés en Occitanie.
Est-ce qu'on a des traces de Dieudonné Coste dans cette exposition ?
Alors, dans cette exposition, non. Précisément non. Après, Dieudonné Coste est mis à l'honneur au musée Aéroscopia de Toulouse, de Blagnac, pardon. Mais dans cette exposition-là, non. Il n'est pas fait référence directement à Dieudonné Coste, mais les personnes qui voudront avoir des informations sur Dieudonné Coste les auront dans l'actuel espace scénographique de La Mounière, où évidemment on valorise ce pilote.
Le premier à avoir traversé l'Atlantique en avion sans escale dans le sens Paris-New York est natif donc de Sept-Fonds. L'exposition Mémoire des airs, quand l'archéologie et les sciences éclairent le passé. Exposition donc qui nous vient de Aéroscopia de Toulouse. Vernissage ce soir, là, tout à l'heure, à 18h30. Une exposition qu'on peut venir voir jusqu'au 31 août dans vos locaux à la Mounière, en plus donc de l'exposition permanente et sur les trois thématiques que farfouille la Mounière. Donc l'aéronautique, la chapellerie, bien sûr, et autour du camp de Jeune, autour des déplacements de population. Et la chapellerie sera abordée dans la suite du programme de ce mois de juin à la Mounière. C'est sur le pas des anciennes chapelleries. Et là, c'est une visite guidée.
Oui, absolument. On l'a programmée le dimanche 7 juin à 15h30. Et c'est Romy qui sera votre guide ce jour-là. Et donc, c'est une visite guidée qui va retracer l'histoire de l'industrie chapelière dans le village de Sept-Fonds. Voilà, le but, c'est de valoriser ce savoir-faire et puis d'essayer de retrouver les traces la trentaine d'usines, si ce n'est pas plus, que comptait le petit village de Sept-Fonds à la belle époque.
Vous avez bien dit 30 usines.
Bien sûr, c'est ça, c'est une trentaine d'usines, absolument. Mais il ne faut pas oublier que c'est un tiers de la production nationale de chapeaux de paille. Sept-Fonds et Caussade, le bassin Sept-Fonds-Caussade, c'est un tiers de la production nationale en 1900. Les deux autres bassins chapeliers en France, c'est le bassin qui est dans l'Aude, dans le village de Esperaza, mais là c'était du chapeau de feutre essentiellement. Et l'autre bassin, c'est à côté de Lyon, un village qui s'appelle Chazelles-sur-Lyon. Là on était aussi également essentiellement dans le feutre. Et Sept-Fonds-Caussade, voilà, pour la paille, c'est le troisième, un des trois bassins chapeliers en 1900.
Et c'est la thématique qui sera abordée dans cette prochaine visite guidée de la Mounière. Il y en a une tous les mois. On en a une autour du cimetière de Sept-Fonds, autour de l'inauguration d'une nouvelle exposition au camp de Jeune, enfin de panneaux monumentaux au camp de Jeune. Enfin, il y en a tous les mois sur différentes thématiques, mais celle-ci autour donc du suivi des pas des anciennes chapelleries de Sept-Fonds est en partenariat avec une résidence d'artistes qui est en ce moment sur le territoire.
Exactement, c'est une double résidence d'artistes, les Époupées depuis la Roque et Saba Nickman. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qui est organisé cette visite sur la chapellerie, absolument. Ouais.
Une visite plutôt artistique alors?
Oui, bon, et patrimoniale hein, essentiellement.
Sinon, les femmes aviatrices, autre prochaine thématique de la Mounière, ce sera là une conférence et c'est au menu de ce vendredi 12 juin.
Absolument, alors ça fera écho à justement l'exposition Mémoire des airs du musée Aéroscopia qu'on va accueillir d'ailleurs à la Mounière durant 3 mois. Donc si vous ratez le vernissage de ce soir, rassurez-vous, vous avez tout le mois de juin, juillet et août pour venir voir cette exposition. Et on en a profité pour faire venir un monsieur qui s'appelle Michel Arquier, qui est quand même bien connu en Tarn-et-Garonne. C'est un passionné hein, d'aviation, d'histoire de l'aviation notamment, et qui propose une conférence au Florida. Donc ce sera à 20h le vendredi 12 juin. Et il propose une conférence sur les femmes aviatrices. Et elles sont le plus souvent quand même assez méconnues. Hein. Généralement, on a eu tendance à quand même davantage mettre en valeur les hommes. Et pourtant, il y a eu un bon nombre de femmes aviatrices. Et Michel Arquier leur rendra honneur lors de cette conférence le vendredi 12 à 20h au Florida.
Et c'est tout gratuit. On peut retrouver plein d'infos sur votre site internet www.sept-fonds-la-mounière.com. Et puis, il faut venir ce soir, là, pour le vernissage. Donc, Mémoire des airs, quand l'archéologie et les sciences éclairent le passé. On le redit, une exposition à voir jusque fin août. C'est à la Maison des Mémoires de la ville de Sept-Fonds. La Mounière, on traverse le jardin de Glycine et on rentre dans le bâtiment.
Oui, alors probablement l'inauguration se fera en plein air, dans la cour du bâtiment. Voilà.
À ce soir, donc, Carole Staniski, directrice de la Maison des Mémoires de la ville de Sept-Fonds. Rendez-vous à 18h30 par chez vous.
Au revoir, Lisa.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long d'un mag qui sera, comme de coutume, rediffusé à 18h et à 21h, comme d'habitude, à réécouter en podcast sans modération et à volonté sur le site cfmradio.fr. Juste après les infos, pour tout de suite, vous rejoindrez Rémi depuis CFM Montauban pour le mag. Deuxième partie.